Vous êtes sur RTL. RTL Midi,
le 12-30,
avec Christophe Paco.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. En ce mercredi 28 juillet, on parle déjà rentrée scolaire. Le ministre de l'Éducation de prendre les devants, jamais trop tôt, dixit Jean-Michel Blanquer en cette période de crise sanitaire. À la rentrée, un cas positif chez les collégiens comme chez les lycéens, et les élèves vaccinés pourront rester en cours. Pour les non-vaccinés, ce sera donc à distance. Et pour les écoles primaires, les classes seront fermées, comme cette année, dès le premier cas de Covid. Toutes les explications dès le début de ce journal. Et nous recevrons d'ailleurs, pour aller plus loin, la présidente de la FCPE tout à l'heure, Najat Belhassen. Invité ce matin d'RTL, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance de la France, Bruno Le Maire, a confirmé que le gouvernement allait répondre présent pour soutenir les entreprises du sport, de la culture, de la restauration, du tourisme, dont l'activité pourrait être impactée par le pacte sanitaire. Et puis cette information RTL, un greffier de Périgueux a été placé en garde à vue pour incitation à la haine raciale. Il a été interpellé sur son lieu de travail. La 8e médaille de l'équipe de France ce matin en aviron. Mathieu Androdrias et Hugo Boucheron, médaillé d'or pour le duo français. Magnifique. Réaction, résultat de cette journée olympique à Tokyo. Et puis ce coup de tonnerre avec la quadruple championne du monde de gymnastique, Simone Biles, qui a préféré renoncer à l'épreuve du jour, perturbée par des démons dans sa tête. Alors la pression psychologique, le statut de star, le traumatisme du passé, nous irons un peu plus loin dans la tête des champions avec le psychologue Makis Chamalis. La question du jour sur RTL. Selon vous, est-il normal de distinguer collégiens et lycéens vaccinés des non-vaccinés? Vous dites oui pour l'instant à 46% et non à 45%. J'attends vos appels, on sera ensemble à partir de 13h. Vous aurez la parole, bien évidemment, comme tous les jours, dans RTL Midi. Vos appels au 32-10. La météo, c'est important comme tous les jours. Bonjour Claire Delorme, mais un mercredi un peu plus lumineux visiblement.
Exactement, une amélioration sur l'ensemble du pays, hormis pour les régions au nord de la Loire qui, elles, auront un ciel un tout petit peu plus couvert avec quelques averses très, très localisées et surtout le vent qui va encore souffler le long des côtes de la Manche jusqu'à 70 km/h près du Boulonnais. Partout ailleurs, les éclaircies l'emportent avec un soleil très généreux en Méditerranée. Quelques averses ne seront pas exclues au niveau du relief de la Corse, mais également près des Pyrénées où le ciel sera aussi un petit peu plus encombré, mais rassurez-vous, cela va se dégager. Au fil des heures, pour les températures, on est en dessous des normales de saison. 23 degrés à Paris, 21 degrés à Lille et tout de même 25 degrés à Bordeaux.
Et on y revient tout à l'heure, juste avant 13h. Merci Claire Delorme.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Nous sommes fin juillet et nous préparons donc déjà la rentrée scolaire. Nerissa et Mani, bonjour à vous.
Bonjour.
Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé ce matin que pour les collèges et les lycées, soyons bien clairs, si un cas positif était détecté dans une classe, le non-vacciné restera étudié à la maison et le vacciné, lui, pourra continuer d'aller en cours.
Oui, exactement. Ce qui signifie pas de fermeture de classe si un cas positif est détecté parmi les élèves. L'an dernier, c'était une classe fermée pour 3 cas positifs au collège. Désormais, vous l'avez dit, si cas positif il y a, alors seuls les élèves vaccinés restent en classe. Les non-vaccinés rentrent à la maison. Ils suivront les cours en distanciel. Et donc, l'autre annonce importante, c'est la mise en place dès la rentrée de 6000 à 7000 centres de vaccination dans ou à proximité de chaque établissement. L'Éducation nationale va faire appel aux agents régionale de santé pour aider le personnel soignant de l'établissement. Les élèves qui souhaitent se faire vacciner auront besoin de l'autorisation écrite de leurs parents. Et donc, les mesures pour les écoles primaires et maternelles, contrairement au collège et au lycée, si un cas positif est détecté parmi les élèves, alors la classe est fermée pendant 7 jours. Les élèves de moins de 12 ans n'étant pas éligibles à la vaccination, la campagne de tests salivaires va se poursuivre à la rentrée. Le ministre de l'Éducation parle de 600 000 tests par semaine.
Merci à vous. Vous restez avec nous, Nerissa Emani, puisque nous allons recevoir, pour aller plus loin dans RTL Midi, Najat Belhassen, qui est la coprésidente de la FCPE, qui est avec nous. Bonjour à vous.
Bonjour.
On va voir comment réagissent les parents d'élèves aujourd'hui. Ce vacciné qui reste en cours, le non vacciné qui est à la maison, et si un cas de Covid est détecté dans une classe, c'est logique pour vous ou pas?
Bah écoutez, c'est logique, non, pas tellement, parce que on crée en fait un peu plus de décrochage scolaire, puisque les élèves qui ne seront pas vaccinés, qui seront en éviction chez eux, forcément n'auront pas les mêmes cours que ceux qui seront dans les classes. Donc il y a des inégalités, il y a du décrochage scolaire qui va s'amplifier. Et pour nous, c'était pas le but de la vaccination à la base. Donc on attend de voir les mesures complémentaires qu'il va y avoir avec cette campagne de vaccination.
Qu'est-ce que vous attendez précisément?
Alors, on reste dans l'expectative de savoir comment un professeur va pouvoir assurer un cours à distance et un cours dans la classe. Puisque un élève qui sera en éviction au collège, notamment, puisque c'est par matière, un collégien qui sera à distance, comment les cours vont être assurés pour lui. Puisque forcément, il y aura des inégalités par rapport à ceux qui ont suivi des cours, on va dire, classiques dans les classes.
Qui va contrôler ce statut, finalement, vaccinal à chaque fois qu'on arrive à l'école maintenant?
Écoutez, a priori, ça serait, d'après les informations qu'on a pu avoir, ça serait le chef d'établissement. Mais la question reste aussi pleine et entière sur la question des données confidentielles de santé. Et les barnums qui vont être installés à l'extérieur de l'école vont être gérés par l'ARS. Vous voyez, on a plusieurs acteurs et la confidentialité des données, on ne sait pas trop comment elle va circuler. Dans tout ça.
Vous avez l'impression qu'on force un peu la main aux parents d'élèves, aux élèves eux-mêmes, déjà, dans leur petite liberté de jeunesse?
On aurait préféré une campagne vaccinale qui se fasse avec beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus, si vous voulez, d'acceptation aussi, plutôt que du...
Oui. Voilà, que vous l'imposez. Parce que d'un autre côté, ce qui est paradoxal, permettez-moi ce rapprochement, mais côté enseignant, il n'y a pas de vaccination obligatoire encore aujourd'hui.
C'est bien tout le sujet, c'est-à-dire que il n'y a pas que la question des enseignants finalement, parce que dans les collèges et les lycées, on a plein de corps de métier d'encadrants, notamment des AED, donc des chefs d'établissement. On a plusieurs corps de métier dans les établissements scolaires et la question se pose aussi pour eux, parce que finalement la vaccination, elle va pas empêcher le Covid de circuler, elle va empêcher les formes graves. Donc la question, elle reste aussi pleine et entière de savoir quand un professeur va être, même s'il est vacciné, qu'il est malade, comment vont se passer les remplacements de ce professeur?
C'est clair. C'est bien de s'y prendre quand même longtemps à l'avance, qu'on n'est pas encore à la rentrée, on a plus d'un mois. C'est bien dans le timing pour vous?
Écoutez, vous direz ça à nos amis, à nos collègues des DOM, qui eux vont regagner très bientôt, dans à peine 3 semaines, les bancs de l'école. Il faut penser aussi aux DOM, et j'ai une pensée particulière pour eux, justement, parce que les annonces qui sont faites aujourd'hui, c'est eux qui vont,
les premiers.
Qui vont avoir les premiers échos, bien sûr.
Outre-mer, bien évidemment. Merci en tout cas, et on va surveiller cette inégalité, cette façon de gérer, vous l'avez dit, ce barnum, que ce soit pour la vaccination ou pour tout simplement enseigner et à distance et en même temps en présentiel dans la classe. Merci à vous, Najat Belhassem, et à vous, Nerissa Emani, spécialiste éducation aujourd'hui d'RTL. Il est midi 38. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé ce matin la mise en place des contrôles à l'abord des trains et des contrôles aléatoire dans les wagons. Une décision qui va prendre effet entre le 7 et le 10 août. Il faudra donc montrer le pass sanitaire, c'est-à-dire montrer la preuve d'un vaccin ou la preuve d'un test négatif, bien évidemment, avant de monter dans le train. Reste maintenant à mettre, comme pour les collèges et les lycées, visiblement, à mettre en place ce système et essayer cette procédure, sachant qu'il faudra quand même être assez vigilant et performant, notamment lors du week-end du 15 août. Et vous, qu'en pensez-vous? On en parle ensemble, bien sûr, comme tous les jours dans RTL Midi, après 13h, dans Les Auditeurs ont la parole. Et puis Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, était l'invité de Stéphane Carpentier ce matin sur RTL. Pour toutes les activités qui seraient touchées par l'arrivée du pass sanitaire au début du mois prochain, l'État va répondre présent, comme depuis le début de la crise. On l'écoute.
Nous sommes toujours là, nous l'avons été depuis le premier jour de la crise, il y a maintenant 14 mois. Nous avons maintenu les aides. Les aides sont maintenues au mois de juin, juillet, août. Le fonds de solidarité est toujours actif. L'aide pour l'emploi est toujours présente également. Donc nous avons maintenu les aides pour les secteurs qui sont touchés. Et à la fin du mois d'août, le lundi 30 août pour être tout à fait précis, je recevrai l'ensemble des secteurs auxquels un pass sanitaire est imposé. Je pense aux restaurateurs, je pense aux bars, je pense évidemment au secteur de la culture. Et nous verrons avec eux quelles sont les pertes de chiffre d'affaires. Et nous prendrons les décisions nécessaires pour les aider. Il n'est pas question d'abandonner qui que ce soit dans cette crise. Le choix que nous avons fait avec le président de la République et le Premier ministre il y a maintenant plus d'un an, c'est de protéger tous ceux qui ont à souffrir directement des conséquences de la crise sanitaire.
Bruno Le Maire, qui avec Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, reçoit en ce moment les professionnels du monde des spectacles, avant de participer à un tout dernier conseil de ministres avant les vacances en France pour l'ensemble du gouvernement. Conseil des ministres présidé à distance de son avion par Emmanuel Macron au moment où il va quitter la Polynésie dans quelques minutes après un voyage de 5 jours. Le président de la République, qui avant son départ a affirmé, sans demander pardon, que la France avait une dette à l'égard de la Polynésie française pour avoir réalisé près de 200 essais nucléaires dans le Pacifique pendant 30 ans jusqu'en 1996. On l'écoute.
Je vais vous dire très franchement les choses. Je pense que c'est tout à fait vrai qu'on n'aurait pas fait ces mêmes essais dans la Creuse ou en Bretagne. On l'a fait ici parce que c'était plus loin. On l'a fait ici parce qu'on se disait c'est perdu au milieu du Pacifique, ça n'aura pas les mêmes conséquences. C'est vrai. Est-ce que j'aurais fait autrement si j'avais été à la place de ceux qui ont alors décidé ? Je suis incapable de vous le dire. Incapable. Mais c'est ce qui s'est passé. Et donc aussi vrai que je vous dis que je pense qu'il est bon pour la France et pour nous que nous soyons dotés de l'arme nucléaire dans le concert des nations face à des puissances dangereuses. Je veux ici vous dire que la nation a une dette à l'égard de la Polynésie française.
Propos recueillis par Jacques Serret, envoyé spécial aux côtés du président de la République ce matin avant son départ de Papété. Une petite pause dans un instant. Troisième médaille d'or, la 8e au total pour l'équipe de France olympique. On en reparle avec nos envoyés spéciaux à Tokyo. A tout de suite.
Couvrir au livre de poche.
RTL Midi
avec Christophe Paco.
Que ça fait du bien. 8e médaille pour la délégation française tôt ce matin, la 3e médaille d'or en aviron, cette fois en deux de couple. Mathieu Andre-Audrias et Hugo Boucheron, sacrés au plus haut, là-haut, au sommet de l'Olympisme. Les Français ont devancé les Pays-Bas et la Chine après un départ canon. Portrait d'un duo en or avec vous, Nicolas Burnand à Tokyo. Bonjour Nicolas.
Bonjour. Oui, deux personnalités atypiques, deux caractères embarqués ensemble sur le même bateau dès 2014 au pôle aviron de Lyon. Hugo, quartier maître de 28 ans, est plutôt un instinctif. Mathieu, ingénieur de 31 ans, a besoin de tout analyser. Ils ont dû apprendre à se connaître, laisser une place à chacun pour exprimer leurs qualités et se retrouver sur ce podium olympique.
J'ai un jet d'émotion là qui arrive, qui est trop fort pour moi, quoi, parce qu'on prend la mesure de tout le chemin, les galères aussi, parce qu'on s'est construit comme ça. Mais aujourd'hui, finalement, avec la médaille dans la main, je me dis que c'était un passage obligatoire, quoi. Ça donne beaucoup de sens, ouais, à toute la route qu'on a faite ensemble.
Ils sont sixième et déçus à Rio en 2016. Ils remportent les championnats d'Europe et du monde 2 ans plus tard, mais leur préparation au jeu est perturbée. Hugo contracte la toxoplasmose, puis le Covid, malade durant des semaines, loin des bassins. Il a fait de cette frustration un carburant pour gagner aujourd'hui, explique-t-il, toujours un peu blagueur.
Comment dire ? La prime, elle, c'est pas la même. Déjà ça, non, je déconne. C'est la plus belle récompense en tant que sportif. C'est un titre, c'est un rêve qui se réalise, quoi. C'est quelque chose qui était un peu au sommet de notre montagne. Voilà.
Ce sacre olympique n'a pas seulement marqué l'histoire de l'aviron français, il a aussi et surtout réuni deux hommes, deux sportifs à tout jamais.
Magnifique portrait évidemment Nicolas Burnand avec ses champions, 3e médaille d'or, 8 médailles, y aura-t-il encore d'autres médailles pour la France ? Qui sait ce soir ? On ne sait jamais. Christian Olivier, bonjour.
Bonjour.
On revient quand même sur les performances des Français de la matinée.
Déjà. Ah bah performance ouais. Ou contre-performance. Allez. D'abord une médaille de bronze possible pour les basketteuses françaises 3 contre 3, battues en demi-finale 18-16 par les Américaines. Si vous voulez mon avis, les Français se feraient un peu carotter par l'arbitrage. Mais elles peuvent remporter la médaille de bronze dans une heure environ contre les Chinoises. Un petit coup d'éclat, même s'il profite de la blessure du grec Tsitsipas. C'est Hugo Humbert, 2-6-7-6, 6-2. Tsitsipas, blessé à une jambe après une chute, avait demandé l'intervention des médecins. Il a repris tout de même son match. Hugo Humbert qualifié pour les quarts de finale du tournoi. Tout comme d'ailleurs Jérémy Chardy. En revanche, Mahu Mladenovic, double mixte, sorti d'entrée de jeu. Le Slovène Roglic a bien fait de quitter le Tour de France sur l'étape de Tignes. Il a soigné ses blessures, sa chute également. Et ce matin, il est devenu champion olympique de contre-la-montre individuel. Rémi Cavagna, le français, très décevant, 17e pour Cavagna, qui avait bien fait de partir très très tôt au Japon pour préparer sa course. Chez les filles, Juliette Labou, 9e, la championne olympique a pour nom Van Vleuten, c'est une néerlandaise. Journée sans médaille pour le judo français, ça peut arriver, pour la première fois en tout cas depuis le début du tournoi. C'est Fanny pour Margot Pinault, moins de 70 kilos, et pour Axel Clerget, moins de 90 kilos. L'équipe de France de volleyball battue 3 3-7-2 par l'Argentine, est condamné à l'exploit contre la Russie ou contre le Brésil pour avancer encore un peu plus dans la compétition. Je ne me risquerai pas à mettre une petite pièce. Et puis une déception pour le tir à l'arc. Jean-Charles Valadon, vous vous en souvenez, médaille d'argent à Rio. Eh bien, il est éliminé dès les 32e de finale de son tableau. Voilà, monsieur Robin Desbois.
Robin Desbois, j'adore, moi je suis frère Toc. avant d'évoquer le cas de la gymnaste américaine Simone Biles, qui a annoncé son retrait de la compétition pour la compétition du jour, on rappelle que comme tous les soirs, on offre les Jeux Olympiques avec vous, justement, Christian Olivier et Marie Portolano.
RTL à Tokyo.
On va revenir évidemment sur cette info sans plus tarder dans RTL Midi. Information principale peut-être pour beaucoup aux Jeux Olympiques aujourd'hui. C'est le forfait pour la prochaine compétition de l'américaine, la fantastique gymnaste Simone Biles. Je suis toujours obligé de traiter avec des démons. Elle devait remporter 6 médailles, c'est son objectif. Déjà 2 en moins. Makis Chamalidis est avec nous, docteur en psychologie. Bonjour à vous.
Bonjour Christophe.
Grand psychologue du sport, c'est terrible de voir cette championne qui craque complètement pendant les jeux, trop de pression notamment.
Oui, à la fois on peut se dire bah, qu'est-ce qui lui arrive, et d'un autre côté on a vu déjà par le passé des grandes stars comme Naomi Osaka ont montré qu'il y a des moments où il y a un trop-plein et leurs épaules ne suffisent pas pour porter. Pour porter quoi ? Bah, sûrement pas mal de choses dont on va parler.
Oui, notamment les démons, parce que quand on parle de l'aspect sportif ou de la pression américaine, de la pression olympique, est-ce qu'il n'y a pas toujours cette histoire derrière la tête, évidemment, et ces démons, cet entraîneur américain condamné pour des centaines d'années de prison hein, pour attouchement sexuel.
C'est la star de cette délégation US, le procès Nassar, finalement Simone, est la seule athlète qui continue à être en activité. Finalement, ça fait beaucoup d'attentes sur elle. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis là? Quel sens donner à ma présence sur place? Même les grandes stars, ils ont leurs démons, elles ont leurs démons qu'il faut traiter. Personne n'est épargné de ce conflit intérieur. J'ai envie de performer, mais d'un autre côté, il y a trop d'attentes. Ça pose aussi la question de la préparation, de leur équilibre. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même des gens qui ont choisi d'être un peu déséquilibrés, d'être sur le fil du rasoir. Donc, et c'est une prise de risque qu'il faut aussi assumer, effectivement.
Elle n'a que 24 ans, mais championne très tôt aussi. C'est ça qui est compliqué pour ces champions d'aujourd'hui.
Oui, c'est un sport de précocité aussi. Mais je pense quand même qu'il y a un lien avec ce procès d'abus sexuel. Ça pèse. Et vous savez à quel point les histoires d'abus d'autorité, d'abus sexuels laissent des traces énormes, des traumatismes qu'il faut prendre le temps aussi de travailler, de penser. Ça ne peut pas se faire d'un jour à l'autre. Et parfois, avec le trop-plein d'émotions qui arrivent la veille d'une grosse compétition comme le JO, bah, ça peut faire que c'est la goutte qui déborde le vase.
C'est clair que ça déborde. En plus, à deux étages, je l'avais dit, mentalement et sportivement, tout assumé pour cette jeune championne quadruple, déjà un championne olympique, on s'en souvient, et qui était partie pour 6 médailles. On espère juste pour le sport et pour sa santé mentale qu'elle puisse reprendre, vaut mieux qu'elle arrête complètement, Makis Chamalidis.
Bon, il faut revenir sur l'être humain avant de parler de l'athlète.
Merci à vous, Makis Chamalidis, d'avoir pris du temps pour nous dans RTL Midi. Au plaisir de vous retrouver.
Merci, à bientôt.
Dans un instant, information RTL, on va voir tout cela avec Guillaume Chiez, un greffier de Périgueux, interpellé sur son lieu de travail, soupçonné d'avoir publié des tweets incitant à la haine raciale. À tout de suite.
RTL Midi
avec Christophe Paco.
À 12h50, cette information RTL. Bonjour à vous, Guillaume Chiez.
Bonjour.
Ce greffier de Périgueux, donc interpellé sur son lieu de travail et qui, visiblement, aurait publié des tweets qui incitaient à la haine raciale et était placé en garde à vue.
Oui, cet homme d'une quarantaine d'années a été interpellé hier après-midi au tribunal de Périgueux dans son bureau. Et c'est le résultat d'une longue enquête de la police judiciaire concernant ce greffier qui publiait sous pseudonyme sur Twitter. Il se présente comme un juriste, ancien militaire, ardent défenseur de ce qu'il appelle la race blanche. Ce fonctionnaire de justice a près de 4000 tweets à son actif. Il appelle entre autres à prendre les armes pour défendre la France contre l'immigration, à matraquer les membres de l'ultra-gauche, les fracasser pour éviter un génocide des Blancs, un profil ultranationaliste, raciste et antisémite. Pour autant, l'enquête a démontré que ses convictions privées n'avaient pas eu d'incidence sur son travail de greffier. À l'issue de sa garde à vue, il pourrait être poursuivi pour incitation publique à la haine raciale, un délit pour lequel il encourt jusqu'à un an de prison ferme et 45 000 euros d'amende.
Merci à vous Guillaume Chiez, service police-justice d'RTL. Dans le secteur médical, un deuxième cas avéré chez un ex-chercheur souffrant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. La personne contaminée avait travaillé sur les prions, une protéine hautement contaminante. Odile Pouget, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste santé RTL. Aujourd'hui, toutes les recherches dans ce domaine sont suspendues.
Oui, cela concerne une centaine de chercheurs travaillant pour de très grands laboratoires publics, hein, comme l'INSERM, le CNRS, le CEA, à l'origine en effet de cette décision radicale prise en urgence. Le cas de cette ex-employée en retraite depuis plusieurs années qui vient de déclarer les symptômes de la maladie, dite de la vache folle, maladie rare mais incurable qui provoque une dégénérescence des cellules du cerveau accompagnée de terribles douleurs. On ne sait pas pour l'instant s'il y a un lien avec son activité passée. En effet, aucun accident, piqûre, coupure n'avait été signalé lorsque cet homme travaillait dans son laboratoire. Il a pu déclarer cette maladie de façon spontanée, comme dans 85% des cas. Une centaine de malades sont ainsi recensés chaque année en France. Une enquête, en tout cas, va donc être menée dans les 9 unités de recherche concernées pour vérifier les protocoles sanitaires, les mesures de sécurité. Cela avait déjà été le cas après la mort en 2019 d'une jeune chercheuse de 35 ans qui avait contracté la maladie après une piqûre accidentelle au doigt 9 ans auparavant, alors qu'elle manipulait des souches de prions dans un laboratoire de Jouy-en-Josas.
Odile Pouget, service santé d'RTL. Après Grenoble et Brest, l'envol ce matin à Toulouse des premières cabines d'un téléphérique urbain d'une longueur de 3 km. Il s'appelle le Téléo. Il devrait faciliter la vie de certains Toulousains, notamment celle des universitaires et du personnel soignant de la région. Reportage un peu comme à la montagne pour les Toulousains de Benjamin Pelsi.
Voilà la cabine qui arrive.
Ah, c'est génial.
Télécommande à la main, Jean-Michel Latz, le président de Tisséo Ingénierie, lance les deux premières cabines.
C'est un projet qui a maintenant plus de 6 ans. Et là, on arrive dans la phase finale, hein, c'est-à-dire ça se concrétise. Avec en plus les cabines qui ont une magnifique allure, dessinées par Pininfarina.
L'un des designers de Ferrari, excusé du peu.
6 emplacements centraux et puis des emplacements latéraux, possibilité d'être debout. Des films que l'on voit ici qui sont anti-vertige. On est sur une cabine toutes les minutes et demie, hein, donc on n'attend pas.
Mais avant que les Toulousains puissent contempler la Garonne suspendue à des câbles, il y a encore du travail.
Il y a encore deux étapes.
Vincent Condon, chef de projet pour Tisséo Ingénierie.
La phase d'essai technique où on va tester chaque dispositif, chaque équipement pour voir s'il fonctionne correctement. Une fois que la machine est prête, fonctionnelle, on lance la marche à blanc. Donc là, l'exploitant va conduire la machine toute la journée, sauf qu'on n'embarque pas de voyageurs. Et on va pouvoir, une fois que l'exploitant sera prêt, embarquer des voyageurs en toute sécurité.
Ce téléphérique permettra de relier 2 quartiers du sud de la ville, et notamment une université, un centre de recherche sur le cancer et un hôpital.
Merci à vous Benjamin Pelsi à Toulouse ce matin, 12h54.
RTL.
Présidentielle.
Le jour où j'ai dit oui.
À quelques mois de la prochaine présidentielle, tous les candidats ne sont pas encore déclarés. On le sait, loin s'en faut. La déclaration de candidature est décisive, bien sûr, dans le lancement d'une campagne. Alors, tous les mercredis de l'été, RTL vous emmène à la rencontre d'anciens candidats à cette présidentielle pour vous raconter comment ils ont franchi cette étape. Aujourd'hui, c'est Noël Mamère, ancien député et maire de Bègles, candidat pour les Verts une seule fois. C'était, souvenez-vous, en 2002, d'abord rejeté par son parti, il deviendra ensuite le sauveur des écolos. Et pour RTL, il a appelé et surtout il a accepté de revenir sur ces quelques jours où il a dit non, puis oui, avant de se lancer dans la course à l'Elysée. Vincent Derosier.
Il aurait pu ne jamais être le candidat des Verts. Noël Mamère n'a d'ailleurs pas dit oui, en tout cas, pas tout de suite.
J'ai commencé par dire non, avec cette phrase et ce mot qui m'a collé à la peau pendant longtemps, en disant que ma décision était irrévocable. En fait, j'avais gagné le premier tour de la primaire face à Alain Lipietz, et Alain avait dit, avec ses 26%, je gagnerai au deuxième tour. Je lui ai dit, mais t'es complètement malade, comment tu vas y arriver?
On attendait Noël Mamère, c'est finalement Alain Lipietz qui sera le candidat des écologistes aux prochaines élections présidentielles. Les militants verts ont créé la surprise en choisissant Alain Lipietz à 51%.
Je pense que j'ai été victime aussi d'une attitude des verts vis-à-vis de moi qui est très ambiguë. C'est cette espèce d'amour-haine.
Malgré l'amertume, Noël Mamère ne va pas disparaître des médias, d'autant que pour Alain Lipietz, la campagne tourne au calvaire.
Alain Lipietz, le candidat à la présidentielle, est une nouvelle fois revenu à la charge en réclamant une amnistie pour les crimes de sang en Corse. Il a été publiquement désavoué.
Les Verts n'ont plus de candidat pour les élections présidentielles. Cet après-midi, deux tiers des militants ont désavoué Alain Lipietz qu'ils avaient pourtant désigné au printemps.
Qui sera le candidat à l'Élysée pour les Verts ?
Et la réponse semble évidente, sauf que l'ancien journaliste a peur de ne pas être suffisamment soutenu et il se braque.
Le vendredi est sortie une interview à la une du Monde. Avec cette phrase, ma décision est prise, elle est irrévocable.
La petite phrase met le feu au parti écologiste. Noël Mamère, lui, est emporté dans une tempête médiatique et politique. Elle va durer 24 heures, les plus longues de sa vie.
Et les appels se multipliaient de mes copains qui me disaient « Tu peux pas faire ça, Noël, c'est pas possible. » Donc du coup, je somatise. Me voilà très enrhumé. Je reviens chez moi et donc je me couche. Pour essayer d'éponger ce trouble. Quand elle m'a vu arriver dans cet état, ma femme a bien compris que je ne pourrais pas tenir sur cet irrévocable. Et évidemment, le soir, quand je rallume mon portable, il était saturé. Dominique Voynet me demande de prendre le café avec elle. Et elle me dit, Noël, voilà, c'est très simple. Soit nous n'avons pas de candidat, soit tu y vas, même avec ton irrévocable qui va te pénaliser. Et j'étais l'invité le dimanche du journal de 20h et Béatrice Schoenberg qui me disait à peu près toutes les 30 secondes, oui mais vous avez dit irrévocable, donc il a fallu que j'assume.
Mamère, bonsoir. Donc votre décision était irrévocable de ne pas vous présenter. On peut donc être stupéfait, surpris de ce retournement total. Est-ce que vous prenez le risque de passer pour une girouette?
Oui, on peut dire qu'on a frisé la catastrophe et que moi je suis entré dans le ridicule.
Les doutes sont maintenant derrière lui. Cette fois, il a dit oui et Noël Mamère y croit.
J'ai toujours eu une part d'inconscience dans ce que je fais. Il faut avoir une part d'inconscience pour décider de marier deux hommes dans sa mairie sans se soucier de savoir si on sera rejeté par les électeurs ou pas. Et moi, j'étais convaincu, mais alors c'est assez fou, que je ferais plus de 5%. Moi, je m'en voyais à 6 ou 7%. Bon, j'ai atterri à 5,25. Finalement, c'est pas si mal.
Le candidat écolo au-dessus des 5%, mais la fête, elle, n'aura pas lieu. Jean-Marie Le Pen est au second tour et Noël Mamère sur RTL est le premier à dire les choses.
Pour moi, il n'y a pas d'autre possibilité que de faire barrage à Le Pen, qui est l'homme de la xénophobie et de l'imposture.
Alors, près de 20 ans se sont écoulés, mais Noël Mamère n'a toujours pas digéré ce 21 avril 2002.
Ce score, il n'a servi à rien. Qu'a-t-on fait de ces 5,25%?
Pendant cette campagne, Noël Mamère a défendu le mariage pour tous, le droit à mourir dans la dignité, le vote à 16 ans ou la légalisation encadrée du cannabis. A-t-il des regrets aujourd'hui? Oui, avoir eu raison trop tôt.
Il y a eu un focus sur certains sujets qui paraissaient complètement extravagants à l'époque et qui aujourd'hui font l'objet d'un vrai débat de société. Et le dernier meeting de ma campagne des présidentielles, je l'ai fait au Cirque d'Hiver et j'avais à côté de mon estrade un joint d'un mètre de haut, alors que j'ai jamais fumé un joint de ma vie. Alors des fois, j'en ai un petit peu de... pas de rancune, parce que je suis pas rancunier, mais je me dis quand même, on oublie vite qu'on a été les premiers à proposer tous ces sujets.
5 ans plus tard, il aurait aimé mener une deuxième campagne présidentielle pour les Verts, mais face à la détermination de Dominique Voynet, Noël Mamère s'efface. Il reste à ce jour le seul candidat écolo à avoir dépassé les 5% à la présidentielle.
Vincent Derosier. Dans un instant, la météo dans RTL Midi, elle est signée aujourd'hui Claire Delorme.